La première, restons curieux.
En 1900 et quelques, vous aviez toutes les élégantes qui rentraient ici.
J'ai découvert la vie. Je voulais partir dès l'âge de 4 ans.
Tout le monde crée son chemin.
Mais on se reverra encore une fois pour raconter encore un tas d'histoires.
Tout le monde a une histoire.
Bon après-midi à toutes, bon après-midi à tous et bienvenue sur la première à Tout le monde a une histoire. Tout le monde a une histoire aujourd'hui. Deuxième épisode pour Farida Azouche dont vous avez peut-être déjà découvert une partie du parcours hier. Alors un parcours qui commence en Belgique très tôt. Elle a plus ou moins 3 ans quand sa mère quitte l'Algérie et son mari. Ce qui à l'époque n'était pas courant. Une intégration qui se fait via une famille d'accueil ici en Belgique, des gens ouverts. Ça se passe à Uccle, ce qui est peu anodin aussi pour l'époque et quand on est de région. Une étrangère, quand on est immigré, hein, comme on dit, on n'a pas encore trouvé d'autres noms, de même qu'on n'a pas trouvé d'autres mots qu'intégration, même si c'est un mot qu'elle n'aime pas, et elle en parlera dans cette émission-ci encore. Farida, aujourd'hui, sort un album de ses propres compositions, de ses propres chansons. C'est un album autoproduit. Ça n'a pas toujours été facile, et dans tout son parcours, il y a forcément des questions qui se posent, y compris par rapport à cet album qui vient de sortir.
Qui je veux être comme chanteuse, qu'est-ce que j'ai à dire? Parce qu'à un moment donné, j'avais arrêté de chanter en me disant « mais pff, je suis pas sûre d'avoir des choses à dire ». Et puis, ben voilà, c'est mes mots à moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Et en même temps, c'est curieux parce que cet album, je l'ai fait en me disant voilà, j'ai besoin d'une première étape, j'ai besoin de fixer ces 17 premières années de travail vocal. Mais c'est pas encore ça mon projet, il y a quelque chose d'autre qui a à se dire derrière et qui n'est pas encore sorti parce que les moyens n'ont pas encore été rassemblés. Il faut travailler régulièrement avec les mêmes personnes pour arriver à produire à traduire la sensibilité, la musique que j'ai à l'intérieur, lui donner corps dans la réalité extérieure, ça prend un temps. Moi ça me prend un temps fou, je pense qu'il y a des gens qui vont plus vite. Moi ça me prend un temps fou, c'est vraiment de l'artisanat, c'est vraiment très très lent, très progressif.
L'autoproduction c'est un choix ou c'est... Voilà, c'est par défaut.
Ben oui, c'est par défaut. Si on était venu me proposer d'enregistrer, j'aurais jamais dit non. En même temps...
Mais en même temps, vous venez dire, c'est quand même 6 ans de composition. C'est 6 ans de composition aussi avec vous-même. Donc ça pourrait être un choix.
Non, c'était si j'avais été aidée, si on m'avait dit, tu sais, ma petite Farida, si tu veux devenir une chanteuse et faire un album, voilà comment il faut faire. J'aurais dit, ah bon, d'accord.
Merci.
Merci pour le conseil et l'information, etc. Bon voilà, non, j'ai pas. C'est un choix. Disons qu'à un moment donné dans le parcours, il y a une personne à qui j'aurais pu demander de produire l'album, mais je sais même pas si cette personne aurait accepté. Mais il y avait en tout cas une hypothèse hein, qu'il fallait peut-être tester, mais que j'ai pas eu envie de tester à ce moment-là parce que je me suis dit c'est la première fois que je vais faire un album et j'ai envie qu'il ressemble à ce que je voudrais y mettre et je ne veux pas. Comme j'entendais souvent parler de producteurs qui imposaient leur choix artistique à l'artiste, j'avais un peu peur d'être déformée par le choix de quelqu'un d'autre à un moment où j'étais encore au tout début et où je ne savais pas encore dire ce que je voulais. Donc il fallait que je me coltine le boulot, que j'apprenne tout par moi-même et que je rentre en studio et que je me décompose et que je me recompose et que je vive cette expérience pour savoir c'est quoi faire un album et la prochaine fois je sais ce que je dois plus faire, voilà.
C'est aussi être seule à la barre.
Oui, c'est vraiment c'est traverser un grand désert. Ouais. Je fais pas ça demain tout de suite. J'attendrai avant de faire un prochain album. En tout cas, je le fais plus dans ces conditions-là. Non, c'était assez rude. Hein. C'est à la fois, enfin c'était rude, c'était éprouvant et en même temps il y a eu, enfin on a passé 6 jours en studio, on était sur une île, une fois que tout était en place et qu'on pouvait faire de la musique, parce que c'est ça, nous on a envie de faire de la musique hein, avant toute chose et puis il y a tellement d'autres choses avant de pouvoir faire ce qu'on aime, hein, de trouver des fonds, organiser, gérer, etc., enfin tous les aspects matériels. Alors qu'on, bah voilà, on est artiste, donc on a envie de faire quelque chose qui n'a rien de matériel. C'est au contraire, c'est de jouer sur ces deux extrêmes tout le temps qui est épuisant. Parfois même, on peut péter une case.
On se fait la guerre, la paix était trop belle. On ouvre le feu. Sur la lune de miel, partout dans le monde, la guerre et les hommes, on n'est plus personne.
Extrait de l'album de Farida Zouche, c'était La Guerre, Farida Zouche, qu'on retrouve maintenant dans Tout le monde a une histoire. Vous disiez tout à l'heure qu'aujourd'hui, vous aviez envie de recréer cette tribu.
Oui.
Est-ce que vous pouvez vous souvenir du moment de votre existence où vous vous êtes dit, bon bah ok, l'intégration ça y est, c'est fait, ou si c'est pas fait en tout cas, moi je m'y sens bien, l'occidentalisation ok, maintenant allons voir du côté des racines et peut-être allons retrouver certaines choses qui avec le recul sont peut-être pas si mal que ça, parce que l'album aussi parle de ça, votre texte parle de ça.
Mm-hmm. Ça s'est fait progressivement, ça n'a pas été un jour et puis un lendemain. Mais d'abord, il y a eu une image comme ça où j'avais l'impression que mes racines étaient là-bas. Alors là-bas, c'est Maroc-Algérie. Et que je voyais l'image d'un arbre dont les racines flottaient au vent. Et un ami m'avait dit « Mais j'irais bien revoir avec toi les petits trous qu'ils ont laissés là-bas. » Et c'est une phrase qui me reste parce que c'est celle qui faisait le mieux le pont entre ici et là-bas. Et c'est vrai que moi, je me sentais déracinée, je me sentais isolée. Et puis petit à petit aussi, j'ai visité le désert marocain en dessous de Marrakech, et puis j'ai été visiter le sud du Maroc, et je me suis réconciliée moi d'abord avec mes racines, qui ne sont pas du tout de là-bas d'ailleurs, mais c'est là-bas que je me sens chez moi, et pas dans le nord du Maroc d'où viennent mes parents. Et puis alors il y a eu tout un projet social dans le quartier Flagey qui s'appelle « Chacun cherche sa place », dans lequel j'ai compris qu'il ne fallait pas que je demande aux autres de me donner ma place, mais qu'il fallait que je la prenne en fait. Et j'avais l'impression que, comme autour d'une table, quand quelqu'un s'ajoute, on s'écarte tous pour lui faire une place. Ça ne se faisait pas. Et qu'il fallait vraiment arriver avec sa chaise et dire « Vous me faites une place ?» Parfois, il faut ça. Il n'y a pas toujours, de la part de ceux qui sont bien assis, un mouvement qui ouvre le cercle pour laisser la place à celui qui arrive après. Et donc, voilà, ça a été aussi une prise de conscience. Donc ça, c'est il y a 3 ans, hein, c'est pas très vieux. Donc voilà, maintenant, quand on se tourne vers moi et qu'on me fait une place, je suis ravie. Et quand on me la fait pas, mais je ne suis plus du tout détruite. Je la prends et ça se passe bien aussi. Donc voilà.
Mmh. Quel est le regard que la femme que vous êtes aujourd'hui porte sur l'intégration des plus jeunes femmes aujourd'hui? On a quand même le sentiment que c'est parfois plus difficile pour les jeunes filles qui ont aujourd'hui 16 ou 20 ans que ça ne l'était pour les femmes de notre génération.
Il y a le mot intégration, hein. Y en a que vous feriez bondir, parce qu'on n'aime pas ce mot-là.
Je n'aime pas spécialement. Non plus.
Mais on n'en a pas toujours trouvé d'autres non plus.
C'est qu'on n'a toujours pas trouvé autre chose. Donc.
Les jeunes, aujourd'hui, je ne les connais pas bien. Je ne les connais pas bien, mais ce que je connais mieux, c'est le détricotage qu'il y a dans les relations entre les gens. Hein, que... Je trouve que, par exemple, tout ce qui servait la transmission avant, a disparu un peu, s'effrite complètement. Et donc, il y a quelque chose de très fragilisé dans les tuteurs qui permettent à chaque morceau de vie de tenir debout, je dirais. C'est un peu ça aussi que je dis, mais dites-moi comment tenir debout. Bon, d'abord, parce que le travail de la femme a créé un grand vide symbolique au niveau d'une fonction qui était quand même exercée par la femme quand elle ne travaillait pas. Parce qu'elle avait ses copines, parce qu'elle avait du réseau relationnel, parce qu'il y avait quand même des choses qui se tissaient dans l'implicite et pas par les pouvoirs publics. Donc ça, c'était une fonction qui a existé et qui n'a pas été relayée dans la réorganisation des rôles sociaux. Donc la femme s'est mise au travail sans qu'il n'y ait de relais sur la fonction qu'elle exerçait. Donc ça, je crois que c'est un premier vide. Et puis, la façon dont l'enseignement s'est déconstruit, hein, vraiment... moi, j'ai l'impression d'être une des dernières générations à avoir bénéficié d'un enseignement de qualité. Et encore, quand j'étais jeune, on disait qu'à la sortie des primaires, nos parents, enfin les parents de mes amis, puisque les miens n'ont pas été à l'école, à la fin du primaire, avaient un bon niveau avec le certificat d'études de base. Ils avaient un meilleur niveau que nous. Et ils trouvaient déjà que ça avait fort baissé de qualité. Moi, je trouve qu'entre-temps, ça a encore plus baissé. Et que de ce côté-là, il y a des relais d'émancipation qui disparaissent. Et ça, moi, je trouve que c'est un problème politique, quoi. C'est vraiment le transmetteur, le vecteur principal de la transmission est en train de se détricoter complètement. Et on rentre dans une espèce de système de parking à enfants, avec dans le meilleur des cas, un petit peu de matière qui se transmet. Mais ça n'aide pas... Je ne crois pas que l'enseignement puisse être une mission que d'instruction. Je crois qu'il y a vraiment un rôle éducatif et qu'il y a une démission générale de la part des adultes envers la jeunesse, dans le sens où les parents sont pris par un stress et une nécessité de travail ou de réalité économique. Donc ils démissionnent par impuissance, en fait, par impuissance. Un milieu scolaire qui démissionne... par impuissance en partie, par manque de moyens en autre partie, et peut-être par perte de sens, peut-être qu'il n'y a plus de sens commun, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est effrité là aussi. Donc là, intégrer les jeunes, mais à la limite, quelle que soit leur culture, c'est comme le décret de l'enseignement. Dernièrement, on en parlait. Moi, je ne sais pas, je suis peut-être un peu trop simpliste dans mon schéma de pensée, mais si on veut une vraie mixité culturelle et économique dans une école, on peut très bien mettre des critères de mixité imposés dans le nombre d'inscrits. Pourquoi mettre des dates d'inscription et des listes d'attente? C'est pas ça qui va favoriser la mixité. Au collège Saint-Pierre, dans la file d'attente, il n'y avait pas un seul prolo. Enfin, je veux dire, faut pas... Alors que ma nièce, elle y était au collège Saint-Pierre il y a un temps où elle trouvait une place pour s'inscrire dans cette école. Aujourd'hui, elle ne pourrait plus.
Tout le monde a une histoire.
Dans Tout le monde a une histoire, c'est le parcours de Farida Zouche que nous retrouvons aujourd'hui encore. Alors un parcours riche, un regard aussi, et forcément des actions.
Moi, je milite bénévolement à travers des structures, des ASBL. J'interviens parfois comme personne ressource dans des équipes qui travaillent dans l'aide à la jeunesse. C'est un sujet qui me préoccupe. J'essaye vraiment de voir comment on peut mettre notre créativité au service des jeunes, parce que je me dis qu'il ne fait pas bon vivre sans avoir devant soi des adultes qui aient quelque chose à proposer du côté du bien-être et de l'espoir. Hein. Voilà, donc il y a ça. Et puis sinon, si on prend la jeunesse migrante, peut-être qu'elle est dans des conflits de loyauté qu'on n'a pas encore résolu. Je pense que par rapport aux enseignants, en tout cas dans mon parcours, moi, il n'y en a pas eu qui m'ait dit « ta culture d'origine est vraiment belle et tu mériterais, elle mériterait qu'on t'aide à t'en rapprocher ». Au contraire, hein, c'était un peu comme à l'époque coloniale, quand on apprenait aux Congolais...
Nos ancêtres les Gaulois.
Nos ancêtres les Gaulois, voilà, c'est ça. Donc je pense qu'il y a des choses à revaloriser et que peut-être alors par le lien, par la relation personnelle de profs motivés, ce qui se fait encore, c'est des personnes, des initiatives personnelles, des initiatives individuelles qui amènent un petit rayon de soleil dans ce gros nuage gris quand même qui est en train de planer sur l'avenir de nos jeunes.
On parle quand même de moins en moins de collectivité et de plus en plus, en tout cas les mass médias. Prône le culte de l'individu, l'individualité. Alors ça peut avoir beaucoup de côtés positifs, ça peut aussi en avoir certains négatifs. Est-ce que vous avez le sentiment, dans toutes les activités que vous faites, et notamment dans toutes celles qui sont en interaction avec d'autres, qu'aujourd'hui, les gens, la majorité des gens que vous rencontrez, ont le sentiment qu'il y a encore une place pour chacun dans le monde ? Est-ce que tout le monde, aujourd'hui, peut se dire « oui, il y a une place pour moi » ? Ou est-ce que c'est pas ça aussi qui est en train de se perdre, cette notion de la société peut m'accueillir, il y a une place pour moi. Alors quelle que soit l'origine, quelle que soit la culture, c'est même pas ça. On peut ne pas trouver sa place en étant...
Je sais pas, moi j'ai l'impression que face aux difficultés qu'on vit en Occident, il y a de plus en plus une tendance à un espèce de repli sur soi pour essayer de s'en sortir tout seul. Et je crois qu'on s'en sort jamais tout seul. Moi, je suis plutôt partisane de transmettre l'idée que la force est dans le groupe et pas dans l'individu. Mais c'est vrai qu'il y a une perte de la compétence à organiser une vie collective, en fait. Que ce soit dans les entreprises, sur le lieu de travail, puisqu'on a des primes individuelles, des valorisations individuelles. On n'a pas toujours intérêt à bien s'entendre avec son collègue pour éventuellement gagner un petit peu de zone de pouvoir. D'ailleurs, le mouvement syndicaliste dans les entreprises n'est pas... plus aussi actif que ce qu'il était, et donc perd en contre-pouvoir, en fait. Donc non, je ne pense pas que l'évolution aille vers « il y a place pour tout le monde ». Et en même temps, moi, je pense que j'ai été influencée par une culture qui dit qu'au contraire, tout le monde est toujours le bienvenu. C'est toujours « marhaba, marhaba, bienvenue ». Et c'est quelque chose que moi, j'essaye de pratiquer. D'avoir et de transmettre la compétence de l'accueil. Faisons tous comme si la vie était chez soi, sa maison, et invitons les autres à y entrer et accueillons-les. Et je pense que quand on fait ça, ça se passe bien, mais ce n'est pas encore ce qui est la règle. Hein.
نوري بني كترجالي
kentsinden harici Winter terjali Qulli wesh katwahshni menin temshi Qulli wesh ghil bili kaybki
Winta, extrait de l'album de Farida Zouche. Alors, je n'ai pas le bonheur de comprendre l'arabe, j'ai donc demandé quelle était la signification de ces titres.
Winta, c'est une chanson d'amour qui dit « Quand me reviendras-tu » en fait. Un petit clin d'œil à Barbara, mais en arabe. Et c'est un propos que j'aurais jamais tenu envers un homme, donc c'est pas une histoire d'amour vécue, c'est une poésie qui est sortie de moi comme ça. Et en même temps, à la réflexion, je me suis dit, mais il n'y a qu'un seul homme à qui j'aurais pu dire ça. Ou alors, c'est un pays. Alors, l'homme, ça aurait été mon père, je ne lui ai jamais dit. Et le pays, ben, ce serait les pays d'où je viens. Quand est-ce qu'ils me reviendront d'une façon ou d'une autre, en me ramenant quelque chose qui me nourrisse. Donc ça, c'est Winta. Qu'est-ce qu'il y avait ? Ouais, je bénis, c'est réponds-moi. Et je pose une série de questions sur le sens de l'existence et des choix humains en disant que moi, ce qu'on m'a enseigné, c'est de me méfier. Et je ne trouve pas que ce soit une bonne idée. Voilà, je prône plutôt la confiance, mais c'est un peu ce que je dénonce. Il y a Élégie, qui est un texte qui est une image poétique de la Tunisie qui était sous le contrôle des colonisateurs et qui, chez les révolutionnaires, ils disent « Malgré la colonisation, notre âme reste vive, un peu comme la braise dans les cendres d'un feu. Et ceux qui ont trahi, qui ont manqué de loyauté envers leur identité nationale, gardent la trace sur leur front de cette trahison, même si elle n'est pas visible, on la reconnaît. Et de toute façon, même quand on est sous le pouvoir de quelqu'un d'autre, notre identité peut toujours rester vive. Voilà, ça c'est Élégie. Est-ce qu'il y en a d'autres en arabe ? Il y en a une qui est en français avec quelques interventions en arabe, mais les seules interventions en arabe, c'est au toit. Donc c'est pas très compliqué. Le titre c'est au toit et en arabe c'est nta.
Une de vos chansons parle de la guerre, mais de la guerre homme-femme, de la guerre des, enfin j'ai pas envie de dire la guerre des sexes ou de la guerre amoureuse ou de la guerre en tout cas au niveau affectif. Alors si elle existe, c'est que c'est important pour vous.
Oui, moi j'ai été élevée dans la séparation hein, entre hommes et femmes et dans le conflit, puisque mes parents se sont séparés quand j'avais 3 ans. Et puis parce que dans cette communauté-là, il y avait en tout cas une méfiance, quoi. Hein. Il y a les hommes d'un côté, il y a les femmes de l'autre, et puis c'est un espèce de devoir de se marier. Mais voilà, moi je pense que j'ai passé mon temps à essayer de trouver un chemin par lequel le dialogue peut se construire. Et je ne voulais pas de cette règle du conflit entre hommes et femmes. Je voulais au contraire chercher la voie de la paix entre hommes et femmes. Et voilà, et donc j'ai pris du temps là aussi. C'est pas facile quand on a un héritage avec des choses aussi évidentes comme ça. Et ça peut se marquer dans des gestes inconscients, même dans le marquage physique, dans le corps, l'ouverture ou la fermeture qu'on a en tant que femme, enfin que j'avais en tant que femme envers l'autre sexe, tous les préjugés, de toute façon les hommes sont tous ceci ou tous cela, hein, on le sait bien, ne fais jamais confiance à un homme, de toute façon il te lâchera, ils ne sont pas capables d'amour, enfin voilà l'héritage que j'avais reçu. Et puis voilà, bon, moi j'aime bien les hommes et je m'entends bien avec eux. Je trouve qu'ils sont pas comme on a dit. Nanana.
Mais il a fallu du temps quand même pour lâcher.
Oui. Bah, ils sont un peu timides, il faut les aider à s'exprimer.
Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can shine as bright as you, I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance, I'm right there if you get lonely. Give this song another listen, close your eyes, listen to my voice, it's my disguise, I'm by your side. Oh, it's what you do to me, what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. What you do to me. Hey there, Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good, we'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. Miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same. Delilah, you be good and don't you miss me. 2 more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. What
what you do to me.
De 16 à 17 heures sur la première.
Sur la première, dans Tout le monde a une histoire, c'est l'histoire de Farida Zouche. Je lui ai demandé quels étaient les cadeaux de son parcours.
L'humanité, moi, je trouve que les gens que j'ai rencontrés, c'est vrai qu'il faut, parfois aller très loin et du côté de la détresse ou de la mort pour toucher à l'essence humaine comme ça chez l'autre. Mais quand elle est là, oh là là. Pour rien au monde, je refuserais de re-signer un bail d'existence, même s'il y a eu des coups durs, juste pour saluer encore cette beauté comme ça qu'il y a chez les gens. Enfin, quand le cœur s'exprime, je trouve que ça, c'est précieux. J'ai l'impression que c'est universel, que derrière toutes les lois, tous les systèmes d'organisation sociale, toutes les guerres, tous les pays, toutes les cultures, toutes les différences, il y a comme ça quelque chose dans le cœur, dans le regard, il y a quelque chose d'essentiel qui, je ne sais pas le nommer, c'est ma raison d'être, quoi. S'il n'y avait pas ça, je n'aurais même pas envie de vivre, mais comme il y a ça, maintenant que je sais que ça existe, il y a quelque chose de, je ne sais pas, moi, ça me nourrit, je sais pourquoi je suis là, du coup, ça donne sens à mon existence.
Vous dites maintenant, je sais que ça existe, ça veut dire qu'il y a eu des moments où vous pensiez que ça n'existait pas ?
Ah oui, il y a eu des moments de désespoir dans lesquels je pensais qu'il n'y avait plus rien qui vaille la peine d'être vécu, où je ne touchais plus à ça, où je trouvais que ça n'avait pas de sens, l'existence. Oui, il y a eu ça.
Alors, Chaîne de vie, ça parle un peu de ça ?
Oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai écrit.
Et en plus, ce n'est pas vous qui l'avez écrit. C'est d'autant plus confrontant.
Ouais, ouais. C'est Evelyne Bruyère, une femme extraordinaire. J'aurais pas pu mettre les mots comme elle les a mis. C'est super ce qu'elle a écrit. Oui, c'est une chaîne de vie, mais en même temps, qu'est-ce qu'on l'aime ? Qu'est-ce qu'elle est belle ? Qu'est-ce qu'elle nous enseigne ? Et qu'est-ce qu'on ferait sans ? Enfin, voilà.
Qu'est-ce qui fait naître une mélodie chez vous ? Qu'est-ce qui fait que ça part de, en règle générale, hein, maintenant peut-être chaque fois c'est différent, mais est-ce que ça part d'un sentiment, d'une rencontre, d'une sensation, d'une odeur, d'une saveur ?
Moi, j'ai l'impression que c'est le temps qui s'arrête à un moment donné. Le temps s'arrête, je suis dans un moment de suspension. Comme quand on a fait un saut, qu'on est en l'air juste avant qu'on retombe. Je suis dans un moment de suspension et il y a quelque chose qui naît. Je n'ai jamais fabriqué de mélodie. Je ne sais pas travailler de mélodie. Moi, elle vient comme ça. Donc mes mélodies sont toujours sorties dans un espèce d'élan spontané. Parfois, le couplet est né un mois et le refrain trois mois plus tard. Mais je n'ai jamais... Voilà, donc ça, c'est une musique intérieure et j'ai l'impression que c'est ma façon à moi d'exprimer. J'ai l'impression que je digère les informations que j'ai prises pendant ma vie et qu'elles ressortent, que j'ai un inconscient musicien et que lui, il traduit ça dans des notes, dans des rythmes ou dans des mots. Souvent, c'est lié d'ailleurs, les mots viennent en même temps que les paroles, les mots en même temps que les mélodies, même si je ne réutilise pas la mélodie. Qui est venu à l'origine dans la chanson finale. Parfois, je garde les mots et je jette la mélodie. Et j'en mets une autre à la place. Voilà. Oui, donc, c'est la source d'inspiration, c'est la vie, très clairement. Et l'émergence de la mélodie, c'est mon rôde bébé bien repu après la digestion. Voilà, on va dire comme ça.
Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers émois artistiques ? Est-ce que vous vous souvenez d'une œuvre d'art, alors quelle qu'elle soit, hein ? De quelque domaine que ce soit, d'une des premières qui vous ait touchée, bouleversée ?
Il y en a eu plusieurs. Je pense qu'il y a eu... Bon, d'abord, je suis une enfant qui a connu la musique à travers la variété. Donc, il y a des chansons qui m'ont fait pleurer, vraiment. Et qui... Enfin, voilà, qui m'ont touchée. Qui disaient ce que je vivais, mieux que j'aurais pu le dire. Ou dont les notes, comme le violon, par exemple, me faisaient vibrer. Il y a eu Egon Schiele aussi, à Charleroi, la première expo qui s'était faite là-bas. Je ne connaissais rien en peinture, je n'étais pas du tout sensibilisée aux arts plastiques. Et quelqu'un m'a emmenée là-bas, des copains de l'UNIF. On est partis en commando ULBiste à Charleroi voir cette expo. Et j'ai découvert comme ça tout un monde que je ne connaissais pas. Sinon, ce sont des musiques, des instrumentaux face à la mer. Voilà, c'est des émois comme ça.
Comment est-ce que vous envisagez l'avenir maintenant, musicalement parlant, par exemple?
Je sais pas. Je sais une chose, c'est que j'ai aucun contrôle là-dessus. Encore dernièrement, j'avais postulé aux entrevues. Il paraît que ma musique n'est pas assez originale, que je ne mérite pas d'être sélectionnée, ni pour l'aide à la production de l'album, ni pour les entrevues. Je connais personne qui fasse ce genre de musique-là pour le moment en Belgique, mais bon, c'est pas grave. Je suis pas assez originelle. Je ne savais pas que c'était un critère artistique en soi. Donc voilà, je sais pas, moi je fais ce que je peux et puis je me dis que si quelque chose doit se passer, les rencontres feront le reste. Je sais que le pouvoir ne m'appartient pas et j'ai simplement choisi de faire ça par choix de vie. C'est ma vie, c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai rien envie de faire d'autre et je fais tout ce que j'ai envie de faire et puis je sais pas comment ce sera, mais ça ne peut être que mieux.
Day Gets Better, c'était John Legend. C'est Farida Zouche que nous retrouvons pour quelques minutes encore dans Tout le monde a une histoire, avec la question récurrente: si elle n'avait qu'une seule semaine de son existence à revivre sans pouvoir rien y changer, ce sera à quel moment?
Maintenant.
Maintenant, avec l'album fait, les concerts, tout ça.
Oui, mais j'aurais pu dire maintenant, il y a 2 ans aussi. Mmh. C'est, je dis, enfin, depuis 2001, ma vie ressemble à ce que j'ai envie qu'elle soit. il y a encore des coups durs et je ne contrôle pas tout, tout n'est pas comme je voudrais, mais je pense que si je suis en vie aujourd'hui, c'est parce que j'ai choisi de continuer à vivre alors que j'aurais pu m'arrêter et que j'ai envie que cette vie ressemble à ce que je suis capable d'être. En fait, je vis chaque jour